9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Chef-d'œuvre au pluriel, imposture au pluriel, surprise et déception au pluriel, exactement. Tous les ans, c'est le lot de la rentrée littéraire. Près de 500 livres ont été publiés à la fin de cet été. Les journalistes sont là pour nous aider à choisir. Des livres qui sont sur les listes de prix, à ceux qui ne mériteraient même pas d'être publiés, les critiques s'écharpent à leur sujet. Et c'est pas nouveau, car cela dure depuis deux siècles au bas mot. De Madame de Staël à Virginie Despentes, en passant par Marcel Proust ou Céline, qui sont les vainqueurs, les oubliés et les grands scandales? Dans quelle mesure la critique littéraire raconte-t-elle notre société? Avec nous, deux connaisseurs de la littérature passée et contemporaine, et une initiative assez exceptionnelle qu'on est heureux de souligner ici dans Culture Média. Étienne Manchette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur-chef de Retro News, le responsable éditorial, comme on dit, site de la presse de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. D'un mot, c'est quoi Retro News?
Alors, en gros, c'est le site qui met en accès, avec Gallica par ailleurs, à quelques millions et millions de pages et millions d'articles sur trois siècles et demi. Donc voilà, c'est une grosse base. Et puis après, nous, on crée toute une partie éditoriale autour de ça.
Avec nous, Jacques Bronstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste culturel, membre du jury du Prix de Flore. Vous écrivez dans Lire, Vogue, Technicart, surtout sur les livres, les essais et les romans. Étienne Manchette, je l'ai dit, une initiative assez exceptionnelle. Retro News publie un beau et gros livre chronique. Point d'exclamation, 50 chefs-d'œuvre de la littérature vue par la presse, et chez Flammarion, soit 50 livres parus entre 1802 et 1951 avec les commentaires d'époque et même des facsimilés. C'est une très bonne idée, très bien réalisée. Pourquoi ces bornes chronologiques et comment s'est fait le choix des œuvres?
Le choix, il était assez compliqué parce que du coup, il faut choisir. Et donc, c'est forcément une réduction. Ce qu'il fallait, c'était...
Vous avez choisi en fonction des articles ou ouais. En fonction des romans ou un mélange des deux?
Alors, un peu tout parce qu'il nous fallait sortir un peu des choses qui étaient très marquées, genre les femmes. Les femmes, par exemple, il y a très peu de femmes qui sont chroniquées ou alors qui écrivent sous pseudo, en général. Et puis, on a aussi voulu mettre des choses qui sont plus mainstream, c'est-à-dire des Jules Verne, etc., pour savoir comment c'était reçu, mais aussi tout ce qui était des Rachid. Par exemple, Rachid, c'est quand même celle qui était comparée au Baudelaire féminin et qui se fait défoncer en permanence, en fait, sur ce qu'elle écrit, parce qu'elle écrit des histoires tordues, des histoires très... pas correct pour l'époque, donc l'ordre moral triomphe, et nous on a essayé de faire un mix un peu de tout ça. Quoi.
Il y a d'autres aussi qui sont défoncés, Jean Stendhal qui est vu maintenant comme un chef-d'œuvre, mais
fait.
Il n'était pas perçu à sa juste mesure, il dit non. C'est pas la peine de changer de pseudo pour écrire des inepties pareilles. Je résume à grands traits, on est une émission média, quels étaient les grands journaux du 19e et du 20e siècle, Étienne Manchette, et lesquels ont perduré, de mémoire je dirais qu'il reste que le Figaro et la Revue des Deux Mondes.
Alors tout à fait, il y avait la presse qui était vraiment le grand journal. Après, à l'intérieur de ça, nous, ça évolue quand même. C'est-à-dire que Ce Soir, Combat et tout ça, qui sont les journaux d'après-guerre ou d'avant-guerre pour Ce Soir, La Gazette, en fait, le Mercure de France et tout ça, c'est les premiers qu'on a dessus. Donc, on a toute une typologie, en fait, de titres de presse qui n'ont pas les mêmes, vocations et surtout qui englobent ce 19e siècle qui passe, en fait, qui est le siècle, la civilisation du journal, hein, comme on l'explique. Et donc, entre 1860 et 1890, il y a un monde entier de presse qui s'établit, qui devient industriel, et donc on change complètement de mécanique d'information. Quoi.
Et qu'on voit très bien dans le film Illusion perdue. Alors, puisqu'on est au 19e siècle, on va parler de l'année 1857, elle connaît deux scandales, Les Fleurs du Mal de Baudelaire et la publication de Madame Bovary de Flaubert. Je pense à tous les élèves qui sont en train de travailler dessus, si c'est au programme de bac français. On peut lire ceci dans le Figaro au moment où ça sort, c'est-à-dire qu'on est le 28 juin 1857. Monsieur Flaubert n'est pas un écrivain. Description à part, son style est indécis, incorrect, vulgaire, et son école, si elle venait à prévaloir, serait l'invasion du daguerréotype, du parler de la rue, et bientôt après du patois, sous prétexte d'exactitude et de naturel. Un procès lui était intenté. Pourquoi ce genre de procès était possible à l'époque? C'est parce qu'on avait dit que ce livre était amoral ou immoral, je ne me souviens plus exactement.
Alors complètement, mais Baudelaire c'est pareil, c'est-à-dire c'est un charnier... À cœur ouvert, enfin, il y a vraiment des expressions assez dingues. Après, il faut bien voir qu'il y a un positionnement moral de la critique qui est plus valable aujourd'hui, ou en tout cas nettement moins. Alors qu'au début, toutes les œuvres les Delphine de Madame de Staël, etc. C'est un jugement moral qu'on porte sur les écrivains, sur ce qu'ils arrivent à sortir. Et donc voilà, et puis l'ordre moral, la presse participe énormément de l'ordre moral tout le long du 19e, donc c'est quand même assez important.
Jaime Grotstein, je ne vais pas faire de vous le parangon du 21e siècle, mais à quoi on peut dire que Baudelaire a été le premier auteur à scandale? Est-ce que vous savez, moi je ne le sais pas, à partir de quand Baudelaire a été étudié en classe?
À mon avis, c'est notre génération.
Pour moi, c'est 68, mais
oui, c'est à peu près ça.
Avant, j'étais trop petit, je ne me rends pas compte s'il était étudiant en 67.
Non, c'est à peu près ça. Baudelaire est resté dans l'enfer, ou plutôt le purgatoire, pendant un siècle. Parce qu'au 19e siècle, il fallait être de bonne famille, avoir de bonnes mœurs, de bonnes idées. Je dirais qu'au 20e siècle, ça a changé. Il faut être dans le bon réseau et chez le bon éditeur.
Est-ce que, de ce que vous avez vu, est-ce que beaucoup des chefs-d'œuvre sont passés inaperçus?
Ah bah, c'est justement ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, c'est que, encore une fois, Rachilde, par exemple, c'est vraiment considéré à l'époque par certains comme vraiment une des plus grandes écrivains qui puisse y avoir. Donc il y a forcément des variations dessus, quoi.
Et inversement. Je parlais de Stendhal.
Ouais.
On explique que c'est verbeux, que c'est trop long.
Ouais, bah, de toute façon, il y a ça qui triomphe, c'est-à-dire qu'il y a. C'est marrant ce positionnement, cette manière d'écrire. Après, il y a les journalistes sont aussi des écrivains. Octave Mirbeau, qui est unique, dans son écriture, il est extrêmement acide. Donc il y a aussi des écrivains qui sont critiques d'art, et c'est ça qui fait toute la beauté. Mais pour Baudelaire, il finit quand même par réécrire quelques années après dans le Figaro.
La question qu'on se pose évidemment, et c'est pour ça que je voulais que Jacques Bornstein soit avec nous, est-ce que c'est une autre époque? Vous parlez du 19e siècle, Jacques Bornstein, est-ce qu'il y a des auteurs complètement oubliés par la critique d'aujourd'hui, ou alors des auteurs qui n'ont jamais reçu aucun prix malgré un grand succès populaire, et inversement, des fausses valeurs?
Alors, des fausses valeurs, je ne me prononcerai pas.
Est-ce que vous voulez dire vous fâcher?
Oh si, moi je veux bien me fâcher, je peux vous donner un nom ou deux, mais c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce... Aujourd'hui, on focalise sur le Goncourt, et on dit toujours « Ah bah machin n'a pas eu le Goncourt, Bidule n'a pas eu le Goncourt ». Mais finalement, si on rajoute le Goncourt, le Renaudot, les autres prix, le Nobel, l'Académie, l'un dans l'autre, à peu près tous les auteurs qui ont été importants, ont été remarqués par le système, parce que le système s'est élargi. Alors qu'au 19e siècle, ça marche pas très bien. Il faut quand même voir que Dumas, Balzac, Zola, Flaubert, Maupassant et Baudelaire, aucun n'a été pris à l'Académie française parce que ça fait beaucoup, à part Victor Hugo, en gros, dans les grands auteurs du... Alors qu'aujourd'hui, si on...
C'est justement des auteurs qu'on qualifie d'académiques, maintenant.
Aujourd'hui, ils sont devenus académiques, c'est ça qui est fou. Et ouais. Je crois que Stendhal, c'est le cas aussi. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même un système plus large, parce que, par exemple, on dit « Oui, Sartre et Camus n'ont pas eu le prix Goncourt. » Oui, enfin, ils ont eu le prix Nobel, donc ça va quand même, ils n'ont pas été oubliés. J'ai trouvé deux auteurs qui n'ont pas été reconnus par le système. C'est, d'une part, Françoise Sagan. Elle n'était pas chez le bon éditeur et elle avait un truc, c'est que ça la faisait suer de discuter avec les membres des jurys.
Mais bonjour Tristesse, ça ne pouvait pas être en Goncourt, c'était un coup de poing d'un...
Ah voilà, elle a eu le prix de la critique et après elle n'a plus jamais eu aucun prix. Parce qu'en fait, elle préférait discuter avec des danseurs, des chanteurs, aller en boîte de nuit que de discuter avec des vieux barbons, des jurys littéraires. Et l'autre, c'est Simenon. Non seulement il venait de la littérature populaire, mais en plus il habitait en Suisse quand même.
Il faisait du polar.
Voilà. Il était belge, il faisait du polar, il habitait en Suisse et bah, ça faisait trop là.
Voilà. On n'a pas parlé des Goncourt qui n'ont pas été donnés de manière contemporaine, ou alors des Goncourt qui ont été donnés et à qui ça aurait pu nuire à la carrière du récipiendaire, à savoir Marcel Proust. Culture Média continue, à tout de suite sur Europe 1.
11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Chronique 50 chefs-d'œuvre de la littérature vue par la presse et publiée par Retro News, le site de presse de la BNF, la Bibliothèque nationale de France et Flammarion. Retro News signifie que ce sont des chroniques historiques, c'est au moment où le livre sort, exemple, le portrait de Dorian Gray, chroniqué par Octave Mirbeau.
Ouais, alors justement, à l'époque, c'est du... comment ça s'appelle, Dorian Gray, il se fait dessouder complètement, il est en plein procès à ce moment-là, donc c'est une figure qui est en train de se faire démolir vraiment complètement pour homosexualité, et Mirbeau il arrive et lui il va prendre la défense de ce portrait-là et il dit j'ai jamais vu autant de l'ordre moral, encore une fois le triomphe, quoi.
On parlait des prix littéraires, on parlait du talent reconnu ou non. D'abord, ça fait partie de la légende. Marcel Proust n'a pas trouvé d'éditeur tout de suite. Il a été édité chez Grasset à compte d'auteur, c'est bien ça.
À compte d'auteur.
Il a payé pour être publié.
Marcel Proust. pour être publié. Comme c'était long, Grasset lui a rajouté un supplément en disant « il y a vraiment trop de lignes dans votre livre, monsieur ».
Et ça ne se termine pas là, puisqu'ensuite, après que personne ne veuille de lui, il a le Goncourt. Mais là, malheureusement, cadeau empoisonné. Racontez ce qui s'est passé. Qui veut raconter?
Il a le Goncourt contre les Croix de Feu de Maurice Genevoix. On est en 1919, il y a donc le livre de Proust d'un côté à l'ombre des jeunes filles en fleurs et de l'autre côté un ancien poilu qui raconte la guerre de 14. Donc scandale.
De 14-18, c'est un an après la guerre, pour les plus jeunes qui nous entendent.
Oui. C'est scandale. Ouais. Il y a un héros national qui raconte la souffrance des poilus et en face ce mondain qui raconte, comme on disait, la baronne est sortie à 5 heures et des histoires de l'aristocratie sur des plages normandes. Mmh. A le prix, et je dois dire d'ailleurs que si on regarde un petit peu, il a le prix parce qu'il a un énorme réseau mondain, parce qu'à l'époque, on ne trouve pas si Proust si incroyable. Sa langue paraît un peu démodée, il n'y a pas encore eu toute la recherche qui nous permet de savoir que c'est un écrivain majeur. Donc tout le monde dit, bah oui, on l'a donné à un mondain qui n'a aucun intérêt, alors qu'il y avait un grand livre d'un héros.
Voilà. D'autres exemples de prix non mérités, ou de moments, de chefs-d'œuvre non repérés par la critique.
Rétrospectivement, ils ont eu raison malgré eux.
Étienne hein. Ouais. Manchette.
Non, mais après, pour revenir sur Proust, Proust, c'est avant tout un mondain, et quand il écrit un texte qui est absolument génial à la une du Figaro, qui s'appelle Un parricide, enfin, il fait l'apologie, en fait, et rendre compréhensible quelqu'un qui a tué sa propre mère, c'est il y a tout bien avant le temps perdu, et c'est vraiment c'est un superbe écrivain de presse, quoi, déjà.
Céline, la sortie de Céline, ça se passe comment?
Mal. Mal. Ben, d'ailleurs, il y a une superbe illustration où le seul qui n'a pas sa photo dans toute la liste, c'est lui.
Il y a la photo de tous les candidats au prix Goncourt, sauf Céline, parce qu'il n'avait pas voulu ou parce que personne ne voulait de lui?
Ben, je crois que c'est lui qui n'a pas voulu.
Jacques Brunstein, on va avancer dans le temps, il y a aussi des auteurs malheureux, ceux qui n'ont pas été publiés quand ils voulaient, ou alors qui ont été publiés en même temps que d'autres auteurs de renom. Moi, je pense à Paul Constant, dont j'ai appris l'existence. C'était en 98, parce que cette année-là, tout le monde disait que c'était Houellebecq qui allait avoir le Goncourt avec les particules élémentaires. Il ne s'est pas passé ce qui avait été prévu, raconté.
En gros, effectivement, le pire qui puisse vous arriver, c'est d'avoir le Goncourt une année où Houellebecq sort un livre, et il y a tout le milieu qui dit c'est Houellebecq qui devrait l'avoir. Or, les jurys du Goncourt m'ont mis très longtemps à se laisser convaincre, puisque les particules élémentaires, c'est en 98, et ils n'ont donné le Goncourt qu'en 2010. Mmh. Donc, Paul Constant, en 98, on dit oh, bon, c'est quand même un petit roman par rapport aux particules élémentaires. Je crois que Houellebecq lui-même a dit ça n'est pas un mauvais roman, c'est plutôt un roman raté, ce qui est vraiment très aimable. Et en 2001, Jean-Christophe Rouffin, on a dit, mais enfin quand même, c'est Plateforme qui aurait dû l'avoir. En 2005, François Veillargans, on a dit, quand même, ça aurait dû être La possibilité du Nil.
Ah oui, c'était une journée chez ma mère, si je me souviens bien.
Trois jours chez ma mère.
Ouais, trois jours chez ma mère, pardon.
Plus long.
Une journée chez ma mère, c'est Charlotte de Turckheim, pardon.
Et donc, en fait, ça a été l'épine dans le pied du jury Goncourt pendant 15 ans. Et quelque part, est-ce qu'ils lui ont donné parce que vraiment, ils ont aimé La carte et le territoire, ou est-ce qu'ils lui ont donné en se disant, bon, faut que ça cesse, faut qu'on arrête de nous dire à chaque fois qu'on ne le donne pas à Houellebecq. Bon, voilà, maintenant, ils lui ont donné, maintenant, ils sont un peu plus tranquilles.
Et puis alors, vous dites qu'il y a des auteurs primés qui ont totalement disparu de la circulation, comme Alexis Génie, auteur de L'art français de la guerre. Expliquez.
Alors, en 2011, il sort L'art français de la guerre, et tout le milieu des jurés adore ce livre. Il faut dire qu'on est un an avant les 50 ans de la fin de la guerre d'Algérie, et toute la question du colonialisme qui est dans ce livre passionne le microcosme parisien. Et le Goncourt veut lui donner, le Renaudot veut lui donner, je crois même que le Médicis veut lui donner, et Emmanuel Carrère aura le Renaudot parce que le Goncourt a été donné à Alexis Génie, et Emmanuel Carrère est un prix de consolation. Enfin, c'est un candidat de consolation, alors que Emmanuel Carrère est considéré aujourd'hui comme peut-être un ou des deux plus grands écrivains français. Et Alexis Génie, ce qui est très étrange, c'est que alors que tout le monde voulait lui donner pour son premier roman, après il en a sorti 5, je crois que personne n'a jamais entendu parler des romans d'Alexis Génie. Il était au bon endroit, au bon moment, et ça lui a joué des tours.
Étienne Manchette, dans quelle mesure les critiques littéraires reflètent l'évolution de notre société? Qu'est-ce que vous avez découvert de manière transversale en préparant cet ouvrage?
Alors, ce qu'on a découvert, c'est surtout qu'il y a tout un déroulé en général qui part justement d'une critique plutôt des hommes et des femmes qui écrivent. C'est vraiment cette partie-là, jusqu'à quelque chose qui est beaucoup plus littéraire, qui rentre en fait dans des considérations qui sont vraiment les mots. Alors le seul qui fait pas ça, c'est justement Octave Mirbeau. C'est lui, il a toujours été énormément dans le texte, mais voilà, on passe, on a ce prisme-là qui est cette évolution d'une voilà, de pouvoir rentrer dans la littérature à partir de des années 30, quoi.
Est-ce que les critiques littéraires, les papiers étaient lus comme aujourd'hui? Est-ce que c'était prescripteur, comme on dit?
Ah bah alors, prescripteur de moralité et prescripteur aussi de vente, évidemment.
Non, évidemment, non. Il y a des romans qui se font sans la critique. Je pourrais citer des milliers de groupes qui n'ont pas été repérés par les critiques musicaux. Je pourrais citer des dizaines de films qui sont encensés et que personne ne va voir, et un film que personne n'avait repéré qui remplit les salles.
Ouais, mais alors, par exemple, sur Jules Verne, voilà, en fait, on est sur un consensus, sur un élément de découverte au 19e. Tout le monde adore d'aller voir les sciences, de la manière dont ils racontent ça. Les Trois Mousquetaires, c'est pareil. Cette jonction entre raconter une histoire et l'histoire, tout le monde adore.
Avant que je demande à Jacques Bonstein si les critiques aujourd'hui ont du pouvoir, il faut quand même situer le contexte qui est totalement différent. C'est qu'aujourd'hui, en cette rentrée, il sort 500 romans par an. Combien de romans sortaient dans l'année? C'était pas 500 par an. On pouvait faire une recension exhaustive des romans qui étaient sortis dans le mois, quasiment.
Ouais, tout à fait. Après,
c'était quoi? C'était une dizaine par mois de romans ou de vingtaines?
Ouais, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup plus.
Ouais. Aujourd'hui, est-ce que les critiques littéraires ont du pouvoir, Jacques Bonstein, vous qui écrivez dans Lire, dans Vogue, dans Technicart et dans beaucoup, beaucoup d'autres journaux?
Ils en ont moins que dans les années 60 ou 70. Je pense qu'effectivement, la presse se vend moins, les critiques sont moins prescripteurs. Mais il y a quand même un système. Si ça plaît aux critiques, souvent ça plaît aux blogueurs et ça plaît aux libraires, je dirais que les critiques ne sont plus des héros solitaires et le critique seul peut dire « moi, j'aime ça » et le monde entier va s'y rallier. Mais ils font partie d'un système qui a quand même encore un système de prescription. Il faut qu'ils soient un peu plus modestes, peut-être, qu'il y a quelques années.
Est-ce qu'il y a des livres de journalistes comme il y a des musiciens pour musiciens?
Je pense...
Il y a des groupes qui sont adorés des musiciens, mais oui. Pas du grand public. Est-ce qu'il y a des romanciers de journalistes?
Oui, oui. Et justement, c'est ce qui a fait le succès de Houellebecq, c'est que c'est à la fois un succès très grand public et en même temps, ça plaît beaucoup aux journalistes parce qu'on est en train de faire des dossiers sur, je sais pas, moi, par exemple, la France périphérique et Houellebecq, il le met dans son roman. Donc, Houellebecq, ce qui a beaucoup plu, c'est que c'est à la fois un auteur pour journalistes et un auteur grand public. Et d'une autre manière, Emmanuel Carrère, il y a ça aussi. Et aujourd'hui, Virginie Despentes, on voit bien, elle parle de MeToo, c'est exactement ce dont on a envie en ce moment, parce que c'est le sujet du moment. Envie, je ne sais pas si c'est le mot, pardon. Et en même temps, y a une qualité d'écriture, elle a à la fois le milieu avec elle et le grand public avec elle.
Merci beaucoup Jacques Bonstein, merci beaucoup Étienne Manchette, je rappelle Chronique, 50 chefs-d'œuvre de la littérature vue par la presse, c'est coédité par Flammarion et Retro News, dont vous êtes le responsable éditorial. Merci d'avoir été avec nous tous les deux.
Merci.
Non, surtout dans
merci.
Un instant, pour tout à fait autre chose, un autre genre de combat, la Coupe du Monde féminine de rugby. On sera en compagnie du journaliste sportif François Trio et de la consultante pour TF1 également, Laura Di Manzio. On va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. L'émission de référence.